bien dit.
Il y a quand même une certitude, ça va.
Ah, c'est une certitude. Mais cette certitude est basée sur la fécondité de l'esprit. Cette conviction de base, ce lien fondamental, et cette distance toujours respectée entre le rite posé par l'homme et le don de Dieu, les actes l'expriment à la fois dans ces exemples où le baptême et la descente de l'esprit ne coïncident pas totalement. Et dans le vocabulaire, là où la coïncidence paraît totale, faites-vous baptiser, l'esprit viendra. Philippe baptise l'eunuque, l'esprit le remplit de sa joie. Paul ne semble pas connaître ce décalage temporel, c'est-à-dire dans ses épîtres. Hein. Baptême et don de l'esprit paraissent chez lui absolument équivalents. Le langage est différent. Sans doute est-ce l'indice d'un rituel assez différent de celui des actes. Mais peut-être ne faut-il pas conclure trop vite. Quand Paul parle du baptême, il songe d'abord à l'événement intérieur, à ce qui se passe dans le cœur du baptisé, et ne s'attarde guère au rite lui-même. Peut-on exclure qu'il ait comporté une mention et une invocation de l'Esprit, les formules parallèles justifiées par le nom de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu, baptisés en un seul corps, abreuvés d'un seul Esprit, celui qui nous a affermis en Christ et fait don de l'Esprit, laisse entendre, au contraire, que l'on ne séparait pas le Christ de l'Esprit, tout en les invoquant séparément. Et Paul sait, lui aussi, d'une autre façon que les actes, exprimer la distance entre l'action des hommes et l'œuvre de Dieu. Et il donne un exemple dans la première aux Corinthiens. Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Et qu'est-ce que Paul ? Les serviteurs, par qui vous avez embrassé la foi. Et chacun d'eux, selon ce que le Seigneur lui a donné. Moi, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Le baptême n'est pas cité, mais il était quelques pages plus haut, dans le même contexte, et embrasser la foi maintient la même perspective. Je vous recommande ce livre. Il est vraiment... c'est à la fois celui d'un exégète précis, rigoureux, et en même temps, il dit les choses hein, en les sentant profondément présentes dans notre Église.
De quelle connexion ?
Pardon ?
Quelle collection ?
Là, c'est la collection Parole de Dieu, hein, mm-hmm. Au seuil. Ça a paru en, donc, entre Jésus et l'Église, en 85. Bon.
Que fais-tu de la confirmation ?
Nous n'y sommes pas encore. Et nous voudrions déjà lire notre Église dans l'Église primitive. Il faudra du temps avant que la confirmation n'advienne comme un sacrement particulier. Il n'y a pas encore ce sacrement à ce moment-là. Il y a un chemin.
Qui est par-dessus aussi dans un autre.
Il y a un chemin. Nous pensons que, hein, que tout était là, présent, comme nous avons aujourd'hui, dès le départ.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une démarche qui a fait donner naissance à...
Il y a quoi ?
Vous pensez qu'il y a quelque chose qui, d'où est issu, qui a donné naissance.
Ah, bien sûr ! Bien sûr ! Le don de l'Esprit Saint existe au départ. Et chez les orthodoxes, le don de baptême, l'Eucharistie, hein, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation se font en même temps. En même temps, on donne la communion au petit enfant. Hein? Pourquoi ? Parce que c'est le sacrement d'initiation. Il est incorporé au corps du Christ et donc il est configuré au corps du Christ par l'Esprit Saint. Et le sens de la confirmation est là, il est déjà présent. Mais le rite n'est pas encore celui que nous connaissons.
Mais l'Esprit Saint ne vient pas nécessairement quand on confirme.
J'espère qu'il est déjà là.
Il est déjà là.
Et c'est peut-être parce qu'il est déjà là qu'on confirme. Mais il faut plus que ça. Mais...
Sinon, il ne faut pas confirmer.
Non.
Et c'est quoi le sens ?
Mais justement, le sens, c'est la confirmation. C'est la personne qui prend en charge sa configuration au Christ par l'Esprit Saint et qui le prend librement en charge. C'est vraiment un geste important.
Évidemment, nous sommes des juristes romains de formation et donc on veut absolument dire qu'il n'y avait pas juste une seconde avant, il y a après la théologie orthodoxe, un
beaucoup plus global.
Pour que Guy ait rejoint.
Oui. Pardon ? Bon, nous sommes. Oui, est-ce que c'est possible de le dire un petit mot, Michel ? Michel voudrait nous dire un petit mot sur la manière dont aujourd'hui il y a moyen de vivre, je pense que la communauté de l'Église primitive vivait, mais dans un contexte différent. Alors, il va nous faire un petit schéma.
C'est un nouveau genre, on dirait.
Un petit schéma.
Ça veut dire que c'est bien téméraire d'essayer de vous parler, de réessayer à travers le balbutiement, d'essayer de percevoir la réalité que j'ai vue là-bas à Milan. À Milan, à cause du fait que j'ai une mauvaise lecture, j'ai vu donc la petite revue diocésaine qui avait une petite relation d'une revue Christus, n'est-ce pas, la revue de Jésus, du numéro de mars, qui faisait un peu une relation de cette expérience des cellules d'église qui se multiplient à Milan dans les diocèses de Martini. Martini, c'est tous les apéritifs, là-bas, il y en a Martini Gantia, mais il était pas là.
Pour le reprendre, mais très brièvement, ce que nous avons vu hier. Et puis, nous essaierons de voir aussi, briller sur l'épître aux Éphésiens, peut-être pas tout de suite, parce qu'il faut encore peut-être voir la section suivante. En fait, si je prends l'épître aux Éphésiens, c'est pour vous montrer comment, dans un même milieu théologique, il y a des manières différentes d'écrire et de dire les choses. Comme je vous ai dit, après que saint Paul ait vu au fond le mystère et essaye de déployer ce que signifie le mystère de l'Église comme corps du Christ, Luc, dans les évangiles d'une part et dans les actes de l'autre part, mais de façon tout à fait parallèle, nous donne de percevoir comment cette Église est née à partir de Jésus, de la vie de Jésus, et il déploie la vie de Jésus en parallèle avec la vie de l'Église. C'est bien sûr une construction. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas nous fier absolument si nous voulons faire une étude chronologique, historique au sens moderne du terme, de ce qui s'est passé dans cette Église primitive. C'est une construction. Mais cette construction n'est pas en dehors de l'histoire. Elle est comme le miroir, mais déjà une réflexion sur l'histoire. Donc nous ne pouvons pas nous dire « il invente », nous ne pouvons pas dire non plus « il a pris son calepin et il a regardé ce qu'il a fait tel ou tel jour ». Ce n'est pas comme ça qu'on écrit l'histoire à ce moment-là. On écrit l'histoire à partir d'une compréhension de cette histoire. Un peu comme chacun d'entre nous, nous écrivons, si nous voulons écrire un peu ce que nous avons fait, quelle est notre situation, notre manière de voir notre propre existence, nous écrivons après avoir vécu un certain nombre d'années et avoir saisi ce qui fait l'unité, la compréhension de notre vie. Et donc c'est à partir déjà d'une compréhension de l'Église que Luc écrit. Mais il ne nous fait pas une théorie. Aujourd'hui, en dogmatique, en théologie dogmatique, on ferait un discours qui est beaucoup plus abstrait, mais qui partirait A, B, C, 1, 2, 3, etc. Tandis que Luc, comme je vous l'ai dit, historicise, c'est-à-dire il reprend l'histoire à partir d'une compréhension théologique de l'Église. Et c'est pourquoi nous pouvons faire constamment ce va-et-vient. Et ce va-et-vient entre l'Évangile et les Actes des Apôtres est vraiment significatif. Et il est signifiant de quoi à travers cette construction? Il est signifiant de ceci, c'est bien cela que Luc a voulu mettre en évidence, c'est que l'Église telle qu'elle s'est développée au 1er siècle est bien celle qu'a voulu Jésus. On a écrit un livre, L'Église que voulait Jésus. C'est Gerhard Loffing qui a écrit ça, qui a été traduit en français. Et donc, c'est bien celle-là. Et donc, lorsqu'il veut faire ce parallèle entre l'Évangile et les Actes, c'est cela qu'il nous dit. Vous diriez, mais pourquoi est-ce qu'il ne nous le dit pas de façon plus concrète, plus simple, comme nous le dirions aujourd'hui? Mais parce qu'il a un autre génie. C'est 2000 ans avant nous. Et 2000 ans avant, on écrivait autrement que nous l'écrivons aujourd'hui. Donc nous devons traduire. Et précisément, une de ces manières de traduire, c'est de faire ce parallèle. Alors, qu'est-ce que nous avons vu avant-hier? Nous avons vu essentiellement ceci, à partir de l'incarnation et d'une réflexion sur l'incarnation, Luc veut nous montrer que Jésus, le fils de Marie, est à la fois tout entier de Dieu, fils de Dieu au sens propre du terme, et tout entier de l'homme, et dans une certaine particularité humaine, puisque cette humanité est insérée dans le judaïsme de son époque. Ça, il veut nous le dire en tout cas. Et puis, il nous dit ceci, au moment où il prend sa vie en main comme adulte, il apparaît d'abord, son baptême, comme fils de Dieu authentique. Ce qu'on nous a dit donc au chapitre 1 et 2 se révèle être réel et aussi dans la compréhension qu'en a Jésus. Et il résume cette compréhension après cette tentation montrant bien son humanité. Il est connoté avec les réalités concrètes de l'homme et donc il doit faire face au pouvoir, au savoir, à la puissance religieuse, souvent ce livre, aux réalités concrètes de l'homme. Il doit faire face, il doit prendre position par rapport à cela. Et il a un discours inaugural, qui dit deux choses. Il dit qu'il est libérateur, il faudra voir jusqu'à quelle profondeur et comment il l'est. C'est un programme, il dit qu'il est libérateur. Et qu'il est libérateur pour tous. Toute chair verra le salut de Dieu. Donc c'est ça qu'il nous dit, en bref, dans les quatre premiers chapitres de l'Évangile de Luc. Si nous reportons maintenant dans les sept premiers chapitres des Actes des Apôtres, nous voyons en parallèle que l'Église, qui est en continuité avec Jésus et avec le judaïsme, puisque ça commence par le testament de Jésus, donc c'est bien de lui qu'il s'agit d'abord, et qu'il s'agit d'apôtres qui ont suivi Jésus depuis le début, depuis le baptême de Jean, jusqu'à son enlèvement, donc des gens qui ont eu vraiment l'expérience de sa vie et qui savent de quel esprit, l'esprit de Dieu, de quel esprit cette vie était nourrie. Donc ce sont des gens qui vont être capables de discerner cet esprit et de discerner l'action de se ressusciter alors qu'il a disparu de la circulation. Et donc il va nous montrer cela. Cette continuité avec Jésus, la vie de Jésus et le judaïsme, et comment l'Église primitive est consciente de continuer cette œuvre de Jésus, puisqu'elle essaye de vivre le testament que Jésus lui a donné, et grâce à l'esprit que Jésus lui donne, et en découvrant comment ce Jésus ressuscité est actif dans son Église. Donc c'est normal que nous trouvions dans ces premiers chapitres, en parallèle, l'action de l'Esprit-Saint universelle. Donc, l'universalité est déjà exprimée par le fait que tous ceux qui sont là présents au jour de la Pentecôte viennent de partout. Ils parlent des langues différentes. Et cependant, ils sont unifiés par le même esprit de Jésus. Il n'y a pas une uniformité, mais il y a une unité fondamentale. Et cette unité est donnée d'en haut. Et c'est parce qu'elle est donnée d'en haut qu'on va pouvoir essayer de la chercher sur terre. Mais elle est d'abord donnée. Et puis, il montre dans la guérison du boiteux, la belle porte du temple, il montre comment le ressuscité est vivant. Et le terme qui dit cela, c'est toujours le même mot qui revient, dresse-toi. Dresse-toi. En fait, c'est exactement le mot ressuscité, mets-toi debout. Et ce terme revient à travers tous les actes des apôtres. Il faut toujours se dresser. Et se dresser, c'est toujours vivre de la force même du ressuscité. Vous pouvez trouver ça dans les actes, en relisant les actes, vous pouvez toujours souligner les mêmes mots. J'ai déjà fait en partie dans la graphie qui a été utilisée, vous avez en majuscule ou bien en espacé, etc., qui montre la cohérence du texte et des mêmes mots dans le texte. Et donc, le dynamisme de l'Esprit Saint, qui est le dynamisme même de Jésus, le dynamisme du ressuscité. Et ces deux ne font qu'un. Et la communauté qui est là, qui se trouve au centre, est celle dans laquelle ces deux dynamismes agissent conjointement. Car, quelle est l'action de l'Esprit Saint? L'action de l'Esprit Saint est toujours de faire parler les disciples. De faire parler quoi? Mais la parole, c'est-à-dire dire Jésus. Dire Jésus comment? Bien sûr par la parole qui sort de la bouche, mais aussi par la parole qui est le témoignage de la vie. Et donc, quand l'Esprit est là, on voit que des personnes ou des communautés deviennent semblables à Jésus. Nous dirions aujourd'hui, nous voyons que des communautés ou des personnes ont l'esprit évangélique. Une manière de dire les choses aujourd'hui. C'est-à-dire que cette communauté ou ces personnes deviennent de plus en plus semblables à Jésus, à travers un long processus. Mais on peut déjà découvrir Jésus. C'est ce qui nous est dit, bien sûr, dans un langage qui est beaucoup plus fort et plus net. On voit mourir un témoin, et on le voit mourir comme on voyait mourir Jésus. Donc c'est clair qu'on doit dire à partir de là, il est véritablement témoin de ce Jésus. Puisque, à des gens qui n'ont pas connu Jésus, ou qui étaient à quelques années de distance, il leur est donné maintenant de le voir. Et aujourd'hui, c'est pareil pour nous. Nous n'avons pas connu Jésus selon la chair. Et pourtant, en lisant les textes de l'Évangile, et en regardant vivre certaines personnes, nous nous disons, oui, il devait être comme cela. Ça veut dire, Jésus le ressuscité vit en eux et donne son esprit qui conforme ces personnes à sa vie propre, dans des situations différentes. Et les actes des apôtres, évidemment, vont devoir nous dire que les situations dans le monde de la diaspora, le monde méditerranéen, sont évidemment différentes de celles de la Palestine. Il ne faudra pas s'étonner de ne pas retrouver exactement les mêmes faits, de manière qui serait tout à fait allégorique, dans les évangiles et dans les actes. Pourquoi? Mais parce que cela dépend aussi de la réalité de l'histoire. L'histoire de Jésus en Palestine et l'histoire des témoins de Jésus dans le milieu méditerranéen se trouvent à 30, 40 années de distance. Et dans des milieux, dans des espaces, dans des langages, dans des situations sociologiques très différentes. Donc, il doit montrer en même temps l'unité, la cohérence de l'action de Jésus vivant parmi nous et de Jésus ressuscité, il doit montrer cette cohérence dans des situations différentes. Et c'est ça l'Église. L'Église change parce que le monde change, mais ça doit être le même esprit et la même configuration à Jésus. Sinon, ce n'est plus l'Église de Jésus. Ce n'est plus le corps réel de Jésus ressuscité. Donc voilà un peu la vision. Alors, après avoir montré le dynamisme de l'Esprit et le dynamisme du ressuscité, il nous donne un aperçu de la communauté, mais il nous avertit, comme Jésus dès le départ, Siméon l'avait annoncé, puis les gens de Nazareth avaient refusé Jésus, quand Jésus leur disait « Ouvrez-vous à l'universel », nous trouvons la même chose, les gens de Jérusalem, voyant, ayant peur de ce message qui s'universalise, et pourtant qui était dans la ligne du judaïsme, puisque le judaïsme est fait pour rendre témoignage au nom du Dieu unique dans les nations. C'est la mission d'Israël. Mais ayant peur de perdre leur identité et leur pouvoir, c'était des Sadducéens, leur pouvoir dans cette universalisation du message dans la parole de Jésus, parole messianique, comme ils ont fait pour Jésus, ils l'ont mis dehors, ils le font pour les apôtres. Ils veulent les mettre dehors. Pas immédiatement les mettre dehors, leur interdire de parler la parole. Et les apôtres disent, c'est pas possible. Ils ne vont pas. Et nous voyons qu'il y a quelqu'un qui parle pour les apôtres, Gamaliel, qui est pharisien. Et Saint-Luc va toujours montrer la différence qu'il y a entre le pharisien qui intériorise la parole de Dieu à travers une tradition, tandis que le sadducéen est beaucoup plus dur, intransigeant, et au fond ne donne pas tout son poids à la tradition explicative. Oui. Sa manière de vivre et sa manière de parler aux pharisiens. Jésus était tout à fait dans la mouvance pharisienne. Toute sa manière de vivre est bien cela. Et des gens comme aujourd'hui, comme David Flusser, qui est un juif qui enseignait à l'université hébraïque de Jérusalem, le détermine lui de façon précise en comparant les dits des pharisiens de son époque. C'est souvent intéressant d'ailleurs. Toute une étude a été faite et continue d'être faite sur les différents rabbins pharisiens de l'époque de Jésus et les dits de Jésus. Quand vous comparez cela, vous voyez qu'il est tout à fait dans cette tradition, dans cette mouvance-là. Et dans la tradition pharisienne, il est élite. Il y avait deux traditions pharisiennes à l'époque de Jésus. Il y avait Hillel et il y avait Shammai. Shammai était plus dur, parce qu'il exprimait vraiment la perception juive, nous dirions tout à fait orthodoxe, éventuellement un peu intégriste, un peu anti-universaliste. Tandis que, quand je dis anti, c'est un peu trop fort, tandis que la vision de Hillel était un juif qui avait été éduqué en diaspora, c'est-à-dire à Babylone. Il avait suivi, vous savez que la tradition s'est poursuivie après l'exil, il y a eu des fondations d'écoles à Babylone, et qui se sont poursuivies jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ, et qui ont continué dans la tradition, et Hillel était de cette tradition-là, donc plus ouvert, plus universel. Et pratiquement, Jésus, sauf en un point, et c'est aussi intéressant, pratiquement, Jésus suit toujours cette tradition pharisienne, parce qu'il utilise la tradition, bien qu'il prenne distance par rapport à la tradition des anciens, comme il le dit, prend distance, mais il va toujours dans le sens de cette tradition pharisienne hillélite, sauf sur le point, et nous en parlons aussi, sur le point du mariage, de l'indissolubilité du mariage, où Hillel était plus large, pour l'obtention d'un divorce. Le divorce était concédé par Moïse, comme il est dit dans l'Évangile, concédé par Moïse, chapitre 24e du Deutéronome. Et là, Jésus radicalise. C'est à peu près le seul endroit, au dire même des Juifs, c'est intéressant d'avoir leur témoignage, à peu près le seul endroit où Jésus est plus radical que Hillel. Mais l'universalité du message était déjà souligné par les pharisiens hébraïques, qui avaient vécu donc dans la diaspora, au milieu des nations païennes. Donc voilà un peu comment il va nous montrer. Alors il va nous montrer cela, il va nous montrer, au fond, à partir d'un homme qui n'est plus un disciple immédiat de Jésus, mais qui vient venant de la diaspora, donc parlant déjà une langue universelle, le grec, mais pas l'araméen, qui était une langue particulière. Donc un homme venant de la diaspora, ajouté par les douze pour résoudre certains problèmes communautaires, et c'est cet homme-là qui va être mis comme type du témoin martyr, Étienne. Oui, c'est intéressant de voir ce que fait Saint-Luc quand il nous raconte les choses comme ça. Il pourrait nous montrer, évidemment, comme il le montrera au chapitre 12, il pourrait nous dire que Jacques, l'apôtre, celui-là, que Jacques a été martyrisé. Il pourrait mettre ça en exergue et nous décrire le martyr de Jacques. Il n'en fait rien. Il prend celui d'Étienne pour bien montrer que il y a une continuité de témoignages, même au-delà des apôtres. Nous appelons ça, nous, aujourd'hui, la succession apostolique. Et oui, ce n'est pas une succession voulue et programmée. C'est l'Esprit Saint qui fait du témoin de la seconde génération la même réalité, c'est-à-dire la même présence de Jésus ressuscité, que qui n'agirait dans un témoin de la première génération. Mais on ne vous dira pas, on attendrait évidemment dans les actes des apôtres, on ne dira pas comment Pierre est mort. Hein, on s'y attendrait. Mais éventuellement, on voudrait savoir comment Paul est mort. On est frustré là-dessus. Vous savez comment un témoin meurt, regardez Étienne. Et qu'est-ce qu'Étienne fait? Étienne, dans son discours, reprend l'histoire d'Israël en montrant que dans cette histoire d'Israël, il y a des contestations constantes. Et malgré ces contestations contre celui qui mène le peuple, aujourd'hui contre le pape, hein, malgré ces contestations, l'Esprit Saint agit toujours dans le droit fil de l'action de Jésus. Toujours. Malgré les contestations. Et le signe, il n'y a pas de preuve de cela. Il raconte que l'histoire a toujours fait de la sorte et que les prophètes n'ont jamais été acceptés totalement. Ils ont été acceptés par une partie du peuple, mais jamais totalement. Et en racontant cette histoire, il la vit lui-même. Et il montre comme un exemple concret comment lui, prophète de ce jour-là, témoin prophète de Jésus, n'est pas davantage accepté que les prophètes. Et il montre bien que sa vie se situe aussi dans le droit fil de l'histoire d'Israël et dans le droit fil de l'histoire de Jésus. Et qu'il est mu par le même esprit. Et qu'il meurt comme Jésus. Donc, il nous fait toute une théologie du départ de l'Église, de la continuité de ces témoins au-delà des douze par rapport à Jésus et l'Esprit Saint. Et pour manifester, deuxième étape, cet universalisme, dans son évangile, c'est ce que nous avons dit hier, dans son évangile, Luc va montrer ceci, que nous venions d'une tradition juive, ou de ce qui dans une vie chrétienne est analogue à cette tradition juive, comme le serait, si vous voulez, cette présence de Dieu immédiate à laquelle nous croyons à travers une histoire. L'histoire d'une élection, l'histoire d'une alliance, l'histoire d'une infidélité, d'une alliance redonnée. Ou que nous soyons païens, je sais bien, païens déjà religieusement ordonnés, comme l'était, quand on commence par un païen qui est religieusement ordonné, on ne va pas commencer par un païen résistant. On commence par Corneille, que nous soyons d'un type ou de l'autre, les deux écoutes nous mènent à Jésus. Il est le centre d'un chemin comme d'un autre. Il est le chemin, puisqu'il est juif, avec cette particularité juive, il est chemin pour les juifs. Puisqu'il est homme, homme venant de Dieu, il réalise en même temps l'universalité. Il est fils de Dieu pour montrer que tout homme, fils d'Adam, est vraiment fils de Dieu et peut l'être et le devenir en lui. Et il veut nous montrer donc que cette double écoute s'adresse à la même personne. Qui est cette personne? C'est ce qu'il dit dans l'Évangile. Qui est cette personne? Les gens de l'Assemblée, les gens qui croient en lui, sont toujours en train de se demander qui il est. Et là, notre foi consiste à nous demander, mais qui es-tu, Seigneur? Notre foi n'est jamais totalement assurée. Elle n'est pas une sécurité, elle est une certitude de sa présence et de son amour, mais une certitude qui est un don de soi, qui est un engagement. Ce n'est pas une certitude préalable, comme le serait une sécurité. Jésus est une certitude insécurisante, en quelque sorte, parce qu'il est toujours en avant de nous, il est toujours promesse. Et donc, qui est-il, celui-là, qui apaise nos tempêtes? C'est comme cela que les choses sont exprimées par Saint-Luc, à partir des gens de la barque, qui se demande, mais qui est-il celui-là à qui le vent et la mer obéissent? C'est-à-dire, qui fait taire, qui apaise toutes les puissances de mort, toutes les puissances maléfiques. Hein, la mer étant l'image des puissances maléfiques, tout ce qui fait tort à l'homme. Et donc, quel est celui qui apaise cela en même temps que les cœurs? Le cœur incroyant des disciples, ou mini-croyant des disciples. Mais dehors, en dehors de la communauté elle-même, la communauté des disciples, chez les ennemis, chez ceux qui s'interrogent, qui ont toujours peur de perdre leur pouvoir, hein, dont le type est Hérode, toujours les deux types du pouvoir, c'est Hérode et Pilate, dans l'Évangile de Luc. Ils reviennent au chapitre 13e d'ailleurs. Eh bien, Hérode se pose aussi la question, mais quel est ce gars-là qui rassemble autour de lui, exactement comme un révolté? Il rassemble des hommes autour de lui, il les mène au désert et il leur donne à manger. Il leur fournit la nourriture. Et qui est ce type-là? Est-ce que c'est un nouveau révolté? Est-ce que c'est un concurrent? Et il y a toujours aussi, dans le monde qui nous entoure, dans le monde qui n'est pas chrétien ou habitué de l'assemblée, et en nous-mêmes aussi, bien sûr, il y a toujours cette question qui se pose. Mais est-il bien celui auquel nous croyons, ou bien ne serait-il pas une figure subversive de l'ordre établi? Dans quel sens? Donc la question se pose. Et Saint-Luc nous a posé la question dans ces chapitres que nous avons vus hier, c'est le chapitre 7 et 8, oui, j'ai dit bien, et début de 9, nous a posé cette question. Qui est-il? Maintenant, il faut qu'il nous dise qui il est, qu'il nous montre ce que Jésus est vraiment venu nous révéler d'en haut, dans l'en bas. Et c'est pourquoi tout le centre de l'Évangile de Luc va être un développement, une sorte de christologie, nous dirions aujourd'hui, un développement de qui est la personne de Jésus. Et bien qu'il n'ait pas encore passé par les conciles christologiques et trinitaires qui se feront, hein, surtout au 3e et 4e siècle, début du 5e, bien qu'il n'ait pas encore fait ça, parce que il ne discute pas les choses, il nous plonge vraiment dans la réalité de la Trinité. Ça, c'est le plan de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, il va nous montrer comment concrètement ces deux écoutes vont se rencontrer. Après nous avoir montré le chemin de l'universalité, quel chemin concret, quel chemin historique prend l'universalité du message de Jésus et de l'Esprit Saint, en parlant de la Samarie et en parlant de la diaspora avec l'eunuque de la reine Candace. Pourquoi ces exemples-là? Parce qu'ils ont existé, évidemment. Ça a été les inventer pour le plaisir. Ils ont existé. Mais à partir de leur existence, il les monte en épingle et il les met sur une trajectoire. Et là, évidemment, il opère un tri parmi tous les éléments qu'il a pu avoir à sa disposition, parmi toutes les sources dont il disposait à son époque. Je ne sais pas lesquelles. Il a certainement fait un tri. Et lorsque vous lisez des livres comme ceux de Louis Boisma, qui essaie justement de retrouver les sources, ce sont trois gros volumes, qui essaie de retrouver les sources du livre des Actes, il formule une hypothèse qui est plausible, un peu compliquée semble-t-il, mais enfin, qui est plausible, fort battue en brèche par d'autres exégètes, c'est normal. Mais il montre comment un premier texte primitif, mais difficile à savoir comment il l'isole, ce texte primitif, a été progressivement, en passant dans une tradition puis dans une autre, dans une église ou dans une autre, comment ce texte s'est peu à peu gonflé, comment on a ajouté des traits. Qui a fait ce travail? Ça, c'est une... C'est difficile à préciser. Eux, ils estiment qu'il y a eu un premier auteur qui était probablement proche de Paul, et puis qu'il y a eu un deuxième auteur que eux appellent Luc à ce moment-là, qui a repris les choses en main, et puis qu'il y a eu un rédacteur définitif. Il donne trois stades de la rédaction des Actes. C'est possible, mais ça reste de l'ordre de l'hypothèse. Et je n'ai jamais voulu tabler sur ce fait-là, pour essayer de regarder le texte en lui-même, dans sa compréhension totale. Mais on peut imaginer des schémas de ce type-là. C'est bien possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que progressivement, la conscience de l'Église primitive s'est approfondie et a fait des tas de rapprochements qu'on ne faisait peut-être pas tout à fait au départ. Au fur et à mesure que vous connaissez l'Écriture, et plus vous la connaissez, plus vous faites des rapprochements entre des textes d'Ancien Testament et de Nouveau Testament, entre des textes dans l'Ancien Testament lui-même ou bien dans le Nouveau lui-même. Pourquoi? Parce que vous percevez combien cette écriture est vraiment une vie. Et on va arriver à la compréhension de l'écriture comme le corps du Christ. Les pères de l'Église vont parler du corps scripturaire du Christ. La parole vivante, c'est-à-dire le corps de l'écriture entière, Ancien et Nouveau Testament, forme un aspect du corps du Christ, le corps qui se dit, pour autant qu'il se prononce. Alors, les Actes vont nous montrer comment, au-delà de Philippe, qui était un des sept, et comme il était un des sept, c'est-à-dire comme il était déjà de la diaspora, donc de l'universalité du judaïsme, c'est lui qui commence à sortir de Jérusalem. Nous avons vu son action en Samarie, nous avons vu son action dans la région de Gaza, pour un Éthiopien. Il y avait déjà des communautés juives en Égypte, Isaïe en parle, et en Éthiopie, ça nous est rapporté par ailleurs, et d'ailleurs, tout récemment, les dernières années, il y a eu des migrations collectives et un peu obligées, des Falachas, c'est-à-dire des Éthiopiens juifs, en Israël. J'en parle mais aussi, évidemment, dans le commentaire. Donc, ouverture à la diaspora. Et puis, il nous fait venir Paul. Juste à ce moment-là, il aurait pu parler, il ne s'appelle pas encore Paul, il s'appelle toujours Shaul. Il aurait pu évidemment en parler avant. Il pourrait en parler après. Mais il a parlé de Paul comme témoin de la mort d'Étienne. Et donc, si Paul n'a pas connu Jésus selon la chair, il l'a connu à travers le personnage d'Étienne. Voilà ce qu'il veut nous dire. Et donc, cette universalité dont il va être finalement le responsable, il va être responsable de la mission universelle de l'Église. Eh bien, on va montrer qu'elle est déjà présente dans la conversion de Paul, conversion entre guillemets, dans le retournement, dans la repentance de Paul, pour parler de manière plus concrète et plus juive. Elle est déjà présente dès le départ. Et ça, c'est un fait qui n'est pas seulement celui de Luc, c'est un fait de l'Écriture dans son entièreté. Quand quelque chose apparaît à un moment déterminé d'une vie, d'une histoire, ce quelque chose était déjà présent à l'origine. Mais il était caché depuis l'origine, caché depuis la fondation du monde. Des choses cachées depuis la fondation du monde. Le psaume en parle, et ce psaume est cité au chapitre 13 de Saint Matthieu, à propos des paraboles. Nous y reviendrons, parce que c'est le mystère caché dont va nous parler précisément Saint Paul dans les Éphésiens. Alors, tout étant préparé, l'universalité par Philippe, le personnage ouvert à l'universel, Shaoul, alors qu'il ne voulait pas de l'universel, puisqu'il voulait que tout le monde rentre dans les rangs. Et c'est pour ça qu'il allait à Damas, pour chercher les chrétiens qui avaient émigré de Jérusalem, pour les ramener dans le rang. Et voilà qu'il est dépassé par l'événement. Il est lui-même, le persécuteur, va devenir un persécuté, va passer dans notre camp, pour bien montrer que ce n'est pas une programmation que lui-même a déterminée. Il a été choisi par Dieu, l'élection, comme un bon Israélite, il a été choisi par Dieu pour une mission qui est la mission d'Israël. C'est ce qu'on vous a dit au moment du retournement de Shaoul. Puis tout cela étant préparé, qui va faire le pas? Ni Philippe, ni Shaoul, ni Pierre. Pourquoi Saint-Luc nous montre-t-il que Pierre fait le pas? Mais parce que lui peut vraiment authentifier l'esprit de Jésus. Lui, le porte-parole des disciples. Lui qui a aussi failli et qui a découvert la grâce de la miséricorde au-delà de son reniement. Donc Pierre a une expérience concrète de l'alliance que Dieu a faite avec lui, de sa propre infidélité et de la gratuité totale du don qui lui est fait dans l'Esprit Saint. Et Pierre va faire ce chemin, et on voit bien qu'il ne le fait pas de lui-même, il faut qu'il soit mené par Dieu, d'où la vision. Il faut aussi, pour bien montrer l'unité du même Dieu, c'est le même Dieu qui donne la vision à l'un et qui donne la vision à l'autre. Ça, c'est de nouveau un procédé littéraire qui veut nous dire, attention, l'une et l'autre vision procèdent de la même origine divine. C'est par l'homme qui se donne un projet d'un côté et l'autre qui se donne un projet de l'autre. C'est ça que Luc veut nous dire. Le projet est le dessein de salut de Dieu. On ne le découvre pas tout de suite. Et Pierre se fait tirer les oreilles pour aller... pour recevoir d'abord les envoyés du centurion, pour aller chez le centurion. Et une fois qu'il est chez le centurion, il voit l'Esprit Saint. Il est dépassé.
Est-ce qu'on peut deviner, parce que je vais avec mentalité d'aujourd'hui, des clins d'yeux de Saint de Luc, l'écrivain, quand il dit voilà, il a ses visions croisées. Est-ce qu'il fait un clin d'œil ou pas? Est-ce qu'il croit lui-même à ses visions? Bien sûr, c'est un emballage pour exprimer.
Et la question que tu poses dit exactement notre mentalité. Ou bien. Pour Luc, il ne se pose pas comme nous. Il faut bien se rendre compte que ces gens-là ne se posent pas comme nous la question d'historicité. Nous nous posons la question de l'historicité à partir de ce qui est vérifiable, repérable, dans le temps et dans l'espace, avec nos moyens. pour dire ça s'est passé à tel moment et à tel endroit. Et nous pensons que quand nous avons dit cela, c'est-à-dire quand nous avons trouvé les coordonnées, on tout dit. Non, nous avons simplement repéré des données dans lesquelles une expérience s'est faite. Mais ça ne nous dit pas l'expérience. Alors, ce que Luc veut nous dire, en même temps, je crois qu'il nous fait un clin d'œil, parce qu'il sait bien qu'il utilise un procédé littéraire. C'est bon, on a fait l'étude de ces procédés littéraires, on voit qu'ils existent aussi bien chez les païens, et il avait une connaissance païenne. L'université de Tarse était renommée, là où il a fait ses études. Il a fait des études païennes. Donc, à la fois, il utilise un procédé, et en même temps, il nous dit, dans ce procédé que j'utilise, il y a quelque chose d'important qu'il ne faut pas louper. Alors, moi je ne dirais pas, c'est nous, disons, c'est un emballage. Est-ce que l'emballage fait partie du cadeau? Voilà. Nous sommes kantiens, que nous ayons étudié Kant ou non, de mentalité, nous sommes kantiens. C'est-à-dire que nous séparons le rationnel de la réalité profonde. Et nous disons, ben, c'est ça ou ça. C'est historique ou symbolique. Et l'histoire concrète est constamment symbolique. C'est-à-dire qu'elle dit une dimension plus profonde que ce que l'extériorité dit.
Finalement, le mystère nous dépasse, donc on doit essayer, dans son expérience, de trouver quelque chose qui s'en rapproche le mieux, tout en disant, c'est quand même pas ça. L'exemple à la Pentecôte, c'est comme du vent, comme...